Court-circuit. Les doigts dans la prise.
De conscience écologique. Bienvenue dans l'émission Court-circuit, l'émission pleine de bonne humeur, de trucs et astuces sur l'environnement. C'est une émission qui est propulsée par le collectif Court-circuit, un collectif qui regroupe des associations et des gens qui ont envie de faire des trucs en lien avec l'écologie. Et pour nous accompagner aujourd'hui, on a Guillaume.
Salut.
Mathilde.
Bonjour tout le monde.
Alex.
Bonjour.
Et moi-même, Anne-Sophie. Et la thématique du jour, c'est être éco-anxieux et garder la banane.
L'éco-anxiété, c'est l'anxiété par rapport au changement climatique. Il me dit, t'es éco-anxieux. Je dis, mais est-ce qu'il était la peine d'inventer un mot pour un truc aussi élémentaire? Je dis, est-ce que ça existe, des gens qui sont éco-joyeux? Je dis, ouais, 50 degrés en été, ouais! Je dis, est-ce que c'est pas plutôt toi qui es balécouilliste? Je pense que c'est plutôt ça. Parce que c'est facile d'inventer des mots pour se moquer des gens. Ah, il a peur de l'apocalypse, il est apo-angoissé, ouh! Bah. Ah oui, il aggrave les chocottes à cause des espèces en voie de disparition, ouais.
Donc voilà, c'était une petite chronique de Thomas VDB sur France Inter et on trouvait que c'était intéressant de commencer l'émission par ça. Alors l'éco-anxiété, c'est un sujet qui peut faire peur, mais au contraire, on va essayer d'aborder ce sujet de façon positive, comme le veut cette émission. Mais d'abord, la première chose, c'est quand on parle d'éco-anxiété, mais en fait, c'est quoi, Mathilde ?
Alors l'éco-anxiété, c'est un mot conceptualisé en 1996 par Véronique Lapège, qui est une enseignante chercheuse canadienne et belge. C'est un néologisme, c'est-à-dire que c'est une contraction des deux mots, écologie et anxiété. Un éco-anxieux ou une éco-anxieuse développe une inquiétude face aux catastrophes écologiques annoncées, dérèglement climatique, perte de la biodiversité, pollution, etc. C'est une anxiété par anticipation, née de la prise de conscience des impacts à court et à long terme du changement climatique. Selon une étude parue en 2021, 45% des 16-25 ans en France souffriraient d'éco-anxiété. C'est une menace assez diffuse qui a un degré plus ou moins imminent, selon les points de vue de chacun, et qui est à une échelle mondiale. C'est ce qui rend la mobilisation difficile.
Ouais, c'est même le mot à la mode. Il a fait son entrée cette année, en début 2023, dans le dictionnaire Le Petit Robert. Donc ma définition, elle est un petit peu moins conventionnelle que celle du Petit Robert. C'est, pour moi, l'éco-anxieux, c'est celui qui pense qu'au menu des emmerdes, on n'est qu'à l'apéro. Donc à noter que même Emmanuel Macron, lors de sa campagne de réélection, avait été interrogé sur le thème de l'éco-anxiété par des jeunes. Bon, je vous passe sa réponse, ça allait. C'était pas sensationnel. Le psychologue Pierre-Éric Suter, spécialisé dans le domaine de l'éco-anxiété, utilise plutôt le terme d'éco-clairvoyance. Car selon lui, c'est ouvrir les yeux sur le problème du monde que nous causons dans nos sociétés thermo-industrielles. Les éco-anxieux se projettent dans l'avenir de façon probabiliste, comme le ferait un scientifique.
Donc en fait, c'est intéressant, ça veut dire que les mots qu'on choisit sont importants. Et lui, ce qu'il dit, c'est finalement, il vaut mieux utiliser le terme d'éco-clairvoyance, pas seulement parce que c'est plus optimiste, mais c'est aussi le terme qui est le mieux choisi, quoi.
Oui, parce que justement, les échos sont anxieux, mais ils font preuve quand même d'une certaine lucidité, d'une certaine clairvoyance dans l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il utilise ce terme-là.
Donc on s'est planté dans le terme de notre émission, quoi.
On pourrait, voilà, c'est exactement ça. Je me suis dit, je vais tout casser d'entrée. Et pour continuer dans cette dynamique, selon Frédéric Lordon, l'éco-anxiété est une merveilleuse connerie. Il nous appelle à surtout être éco-furieux contre les causes, les entreprises, les décideurs qui engendrent ce dérèglement climatique.
Ok, donc c'est le collectif, être furieux contre le système actuel, contre exactement. Le collectif, et être furieux à titre individuel, mais aussi pourquoi pas à titre... À plusieurs. Ok, très bien. Pour continuer nos échanges, je vous propose qu'on passe à la chronique de Guillaume, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui nous a préparé une chronique, donc Guillaume d'Altech. Et donc, on va pouvoir l'écouter dès maintenant.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite chronique sur les impacts du changement climatique sur notre santé mentale. Vous avez trois sortes d'impacts. Vous avez les impacts directs, vous subissez directement un événement grave, tel un tsunami, donc votre mental va forcément en pâtir. Vous avez ensuite les impacts indirects. Le changement climatique va créer des problèmes sociaux, économiques, ou même de migration. Donc vous en subirez également les conséquences. Ensuite, nous avons l'impact par procuration. Vous n'êtes pas impacté en tant que personne, par le changement climatique, mais votre santé mentale va quand même en pâtir. C'est en voyant du coup les deux derniers impacts, par le biais des médias ou une autre source d'information, que vous allez en subir les conséquences. On peut alors parler d'éco-anxiété. L'éco-anxiété n'est pas toujours caractérisée par la peur. Elle provient de toutes les émotions que l'on peut avoir. Vous pouvez être en colère, inquiet, etc. La question que l'on peut alors se poser est comment gérer ces émotions pour qu'elles ne nous empêchent pas de vivre. Alors, on peut travailler directement sur nos émotions, avec par exemple le déni, non, ça n'existe pas, l'évitement de la source du stress, on en regarde plus d'infos, ou un soutien émotionnel. On peut également travailler sur le problème, on va essayer de trouver des solutions en agissant. Et enfin, on peut travailler sur des valeurs ou des croyances. On ne diminue pas les émotions difficiles, mais on améliore ce qu'on appelle des émotions soutenantes. Par exemple, la technologie va nous sauver des problèmes climatiques est une valeur qui compense le fait que l'on pense que la planète est compromise. Tout cela, je l'ai trouvé dans une étude, les impacts des changements climatiques sur la santé mentale des enfants, l'éco-anxiété et le contexte familial de Tera Leger-Godess. Je vous spoil la fin, mais les enfants, dès l'âge de 8 ans, peuvent montrer des signes d'éco-anxiété. Je termine cette chronique tout de même avec une note positive. Dans toutes les publications que j'ai lues cette semaine, les chercheurs croient que l'éco-anxiété ne doit pas être supprimée, mais est un levier pour mettre en action la population. Il faut par contre y faire attention et faire en sorte qu'elle ne devienne pas un problème dans la vie quotidienne. Je rappelle que l'éco-anxiété peut nécessiter un suivi psychologique, au même titre finalement que l'anxiété. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.
C'est intéressant ce que dit Guillaume dans sa chronique sur le fait de ne pas oublier et de ne pas se dire bah non mais ça ne doit pas exister et on doit faire en sorte de ne plus être éco-anxieux mais au contraire de s'en servir comme moteur. Moi je me tourne vers toi Alex, est-ce que justement comment on fait pour remédier à tout ça, comment on fait pour agir et comment on fait pour avancer face à cette question de l'éco-anxiété?
J'ai trouvé 3 conseils pour réduire son éco-anxiété. Premier, c'est de parler, donc de trouver une écoute autour de soi, être bien écouté en fait. Un second conseil, c'est il existe des spécialistes, il y a des psychologues spécialisés en éco-anxiété qu'on peut trouver facilement sur Internet, peut-être directement dans l'annuaire. Le troisième, c'est de passer à l'action, être en mouvement. Si je prends mon expérience perso, une des raisons pour laquelle je suis aujourd'hui dans cette émission, c'est aussi pour réduire mon éco-anxiété.
Ouais, action, réaction.
Voilà.
Guillaume, là-dessus, par rapport à ce que disait Alex?
Il ne faut pas oublier que l'éco-flippé d'aujourd'hui, c'est l'activiste de demain et le transitionneur de demain. Donc c'est important aussi cette notion d'éco-anxiété pour se mettre en mouvement. Et j'aime bien une citation de Cyril Dion qui dit qu'il faut accepter que vous n'allez pas changer le monde ou résoudre le problème tout seul. Mais vous pouvez faire des choses qui vous réalignent avec vous-même, qui vous passionnent et qui vous donnent envie de vous lever le matin. C'est vraiment ça qu'il faut trouver, cette optique-là. Et selon Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur et qui travaille aussi sur le sujet du dérèglement climatique depuis plusieurs dizaines d'années, l'action, elle a une grande vertu, c'est qu'elle rend optimiste. Et donc plus j'agis, plus je suis optimiste, donc plus je suis optimiste. On est dans une très bonne spirale positive. Bref, les témoignages vraiment convergent là-dessus, il faut se bouger. Donc pour ma part, moi, en plus des petits gestes quotidiens, j'anime des ateliers liés aux enjeux écologiques. Je me sens utile pour moi et en plus, je rencontre des gens qui ont les mêmes sensibilités. Et en plus, je contribue à mettre en mouvement des personnes autour de moi, ce qui est nécessaire pour atteindre le plus rapidement possible le fameux point de bascule de la société.
Je vous rejoins tout à fait, les garçons. Je crois que si on revient à l'origine de l'éco-anxiété, c'est une peur, en fait, la peur de l'avenir. On s'en est abattu par ces problématiques qui sont mondiales. Et donc, on peut être tenté de se réfugier dans le nihilisme. Donc, tout est foutu. À quoi bon, faisons la fête. On peut être également tenté de se replier sur soi-même. On coupe tous les canaux d'information anxiogènes. On cultive son petit jardin, on fait du do-it-yourself, donc ça c'est très bien, mais bon, on va pas se mentir, ça va pas suffire. Mais la peur, ça peut être aussi un moteur. C'est en ayant peur qu'on peut générer les ressources pour trouver les solutions à ce mur de problèmes dressé devant nous. Mais effectivement, on peut pas être tout seul. Je crois que la clé, c'est vraiment le collectif. Il faut pas tomber dans le piège qui est l'isolement. Donc, on fait quoi? On se met en action, on rejoint des collectifs, des associations. On s'informe et puis individuellement, on montre l'exemple. Moi également, à titre personnel, déjà, je suis végétarienne, j'habite dans une maison écolo, en paille. je n'ai pas d'enfant, je vote, j'achète la grande majorité de mes vêtements en seconde main, etc. Après, l'objectif ici, ce n'est pas d'être parfait, hein, mais c'est de faire en fonction de ses moyens, de ne pas céder au cynisme, ça c'est super important. Et en fait, on gagne ainsi de l'estime de soi, et puis on se demande au quotidien, qu'est-ce que je pourrais faire de plus ou de mieux pour la planète et donc pour les autres aussi.
Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur, sur ce qu'on peut faire à titre personnel. Moi, je vais parler un peu à côté. Moi, je me réfugie beaucoup dans l'imagination. Alors, j'ai bien conscience que c'est beaucoup moins concret que ce que vous venez de dire tous et toutes. Mais c'est un moteur très, très fort chez moi de ressentir l'écologie, de ressentir les problèmes, de voir la pollution, mais aussi de se faire son propre monde imaginaire et de se servir de ça comme un moteur puissant et non pas comme quelque chose qui nous permettrait de nous sortir de la réalité, mais plus comme quelque chose qui permet d'avoir une vision un peu différente. Voilà, l'imagination à travers les livres, à travers les œuvres culturelles, à travers sa propre imagination, son propre mental. Et moi, ça m'apporte beaucoup. Et puis aussi, ça me permet toujours de me renseigner parce que j'ai pas toujours envie d'écouter Arte, de regarder des documentaires qui sont parfois très plombants. Parfois j'y arrive et parfois j'y arrive pas. Par contre, la science-fiction, ça peut m'aider beaucoup. Les contes m'aident aussi et à rester ancré malgré ce qu'on pourrait croire, de se dire peut-être que ça aide à oublier, mais non, au contraire, ça me rapproche, mais d'une façon un peu différente. Voilà. J'ai conscience que c'était un peu une intervention un peu différente, mais en tout cas, moi, c'est ma manière de fonctionner. On va pouvoir passer à un petit jeu. Comme vous le savez, il y a à chaque fois un petit jeu pendant l'émission. Alors cette fois-ci, ça va faire la transition avec ce que je viens de dire. J'ai noté des mots que les uns et les autres ont pu dire, et j'aimerais que vous imaginiez une histoire qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de se dire, vraiment une histoire complètement inventée à travers les mots que je vais vous donner. Donc on va commencer par toi Mathilde, je vous dis les six mots que j'ai notés, donc on va dire deux mots par personne. Donc Mathilde, ça sera le petit Robert et une chercheuse canadienne. Guillaume, ça sera peur et émotion. Et Alex, ça sera action et écologie. Donc l'objectif, c'est que Mathilde commence une histoire complètement inventée avec ces deux termes. Et puis ensuite, vous continuez l'histoire.
Alors, c'est l'histoire de Pimprenelle, une chercheuse canadienne qui rêve la nuit, seule, dans son lit. Et elle rêve d'un petit homme vert qui s'appelle Robert.
Forcément, Robert, je m'en dure cet exercice. Donc, Pimprenelle, elle pense à ce petit homme vert, un lutin du Père Noël. On est dans le thème. Donc, elle éprouve beaucoup d'émotions et surtout, elle a une vraie peur de ce lutin parce qu'il a un énorme nez. Je ne sais pas pourquoi, mais son nez est vraiment velu, très, 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 très moche.
Il va falloir qu'elle passe à l'action, Pimprenelle. Donc. Ce gros pif de Pimprenelle, là, il va falloir qu'elle fasse quelque chose avec. Et qu'est-ce qu'elle peut faire d'écologique avec ça?
Des verres.
Moi, je veux la réponse.
Ça, c'est un gros carton, elle se le met sur la tête.
Hein. Bon, merci d'avoir joué le jeu. Écoutez, toujours pour faire cette transition avec l'imagination, on va pouvoir maintenant passer aux événements à venir. Quoi de mieux comme transition que la proposition d'événements de Guillaume?
Voilà, je vous propose la fresque des nouveaux récits, justement, on est dans ce récit-là. Donc, c'est un atelier un peu dans le style des fresques du climat, de la biodiversité, c'est des ateliers de 3 heures. Et donc, la fresque des nouveaux récits, c'est une expérience qui vise à faire émerger un futur compatible avec les limites planétaires et à la fois désirable pour tous, en facilitant l'adoption de comportements soutenables grâce à l'imagination de nouveaux récits. Donc, il y a deux parties. La première partie, c'est comprendre les freins socio-cognitifs à la transition et prendre conscience de l'intérêt des nouveaux récits pour lever ces freins. Et la deuxième partie, c'est la réalisation d'un récit pour se relier à son pouvoir créatif et expérimenter comment le désir suscité par un futur souhaitable peut mettre en mouvement. Donc, ce que tu disais, Anne-Sophie.
Parfait, voilà. Impeccable.
Donc, ces ateliers, j'en anime deux sous peu. Là. Le samedi 28 janvier, je serai à la Maison de l'Environnement à Lyon pour un atelier fresque de nouveaux récits. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez aller sur le site de la Maison de l'Environnement de Lyon. Et le samedi 4 février, juste la semaine d'après, je serai à la MJC d'Ambérieu pour ce même atelier. Donc, pareil, toutes les inscriptions via le site de la MJC d'Ambérieu en Bugey.
Eh ben, merci beaucoup pour ces conseils, Guillaume. Moi, j'irai avec grand plaisir.
Moi aussi.
Parfait. Merci à nos intervenants et intervenantes. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast ou sur Radio B. N'hésitez pas à nous faire des retours ou des propositions d'idées de sujets sur court-circuit@lab01.fr ou à aller sur le site de Radio B. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Salut.
Court-circuit.
Dans la prise
de conscience écologique.